Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
C'est un retour inespéré après 13 ans loin de la scène. Phil Collins retrouve son public. 5 concerts à guichet fermé à Paris. Jusqu'à vendredi, Steven Bellery a assisté à la première. Son compte-rendu dans un instant. Le peintre David Hockney est au cœur d'une importante rétrospective qui ouvrira ses portes demain au Centre Pompidou à Paris, à suivre la visite en avant-première. Avec Monique Younes qui a rencontré l'artiste et nous vous offrirons au 3210 des entrées ainsi que le catalogue de l'exposition. À la veille de l'été, Bernard Lehu nous présentera quelques nouveautés parues en livre de poche. Charlotte Arrigoni nous livrera ses express du jour. Et puis à la télévision ce soir, France 2 propose à 23h15 un documentaire consacré à l'histoire familiale de la comédienne Barbara Schulz. Son grand-père était un soldat de la Wehrmacht. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Boss.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Musique donc pour commencer, c'est l'événement de la semaine, le grand retour de Phil Collins sur une scène parisienne. 13 ans après sa tournée d'adieu, le chanteur de 66 ans est réapparu dimanche à Paris-Bercy. Il a donné le premier d'une série de 5 concerts archi complets dans la capitale. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à cette date du Not Dead Yet Live pour RTL.
Il avait dit stop pourtant après des années d'errance alcoolisée, de problèmes de dos, de surdité, de couple. Phil Collins est là, il s'avance. Sans musique, aidé d'une canne, petites lunettes rondes, chemise et pantalon noir, il s'assoit et prend la parole.
Bonsoir Paris, bonsoir la France. Je dis à vous, je suis fini avec la tournée et le spectacle. Mais vous m'avez manqué. Je reste ici parce que j'avais mal au dos, my leg is fucked, and we are happy. You are happy?
Can I just let you walk away? Just let you leave without a trace.
Et c'est avec Against All Odds que démarre la soirée.
So take a look at me now. Cause there's just an empty space. And there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Just take a look at me now.
Take a look at me now, regarde-moi comme je suis aujourd'hui, formule qui a donné son nom aux rééditions de tous ses albums l'an dernier, formule qui sert de fil rouge. Phil Collins, sans phare, ne ment pas à son public, il passera toute la soirée dans un fauteuil en cuir noir, il ne peut plus jouer de batterie. Toutefois, la ferveur est immense dans la salle, j'ai rarement vu ça cette saison. Première surprise, la voix est intacte. Deuxième surprise, une setlist idéale, Another Day in Paradise, One More Night, Follow You, Follow Me et Invisible Touch, emprunté à la discographie de son ex-groupe Genesis, 20 morceaux au total, dont quelques raretés. Il n'avait pas chanté Only You Know and I Know depuis 1995 et... Can Turn Back the Years depuis 1997. Alors oui, il a perdu quelques aigus, du coup son chant est un peu plus rond et suave. La métamorphose est d'ailleurs hallucinante entre les vidéos que j'avais pu voir de ses concerts londoniens et Paris. Tant mieux pour nous, Phil Collins, toujours aussi bien entouré. Les Landsklar et Daryl Sturmer sont là, 3 choristes et 10 musiciens, dont 4 cuivres, qui réveillent Bercy après une première demi-heure assez calme. Le formidable Hang In Long Enough, extrait de l'album But Seriously, vendu à 22 millions d'exemplaires en 90. Puis l'anglais annonce un entracte.
Maintenant, nous faisons une petite pause pour 25 minutes. Nos pipi, vos pipi, tout le monde pipi.
bien compris, tout le monde pipi, c'est bien ça.
L'humour parfait. Anglais de Phil Collins.
Bah oui, et puis un musicien dont vous ne nous avez pas parlé, Steven. Il s'agit du batteur.
Oui, qui ouvre notamment la seconde partie avec un duo en compagnie du percussionniste Luis Conte. Ce nouveau batteur s'appelle Nicholas Collins, 16 ans, le fils de Phil Collins. Impressionnante technique, il manque encore un tout petit peu de puissance ou de finesse parfois. Mais quelle émotion de voir un père passer comme ça le flambeau. Phil Collins avait évoqué ce choix lors de notre dernière rencontre en octobre dernier.
My son will be playing with me, Nicholas. He's the only drummer. I feel terrified.
Mon fils jouera avec moi, Nicolas. Ça sera le seul batteur sur scène. L'idée me terrifie. Je lui en ai parlé longuement. Il est très confiant. À l'US Open, il y avait 20 000 personnes. Ça ne l'embêtait pas. Il était bon, pas stressé. Vous savez, quand vous adorez jouer, vous savez ce que vous avez à faire.
Dans In the Air Tonight, You Can't Hurry Love, Dance into the Light, et ça. Phil Collins n'oublie aucune époque et pioche dans chacun de ses 7 albums studio un concert best-of enlevé, coloré, sans temps mort, cuivré à souhait, bien que très fidèle aux arrangements originaux, parfois un tout petit peu daté. Le concert réserve aussi des moments suspendus comme ce duo entre père et fils au piano.
Deux ans passés, Nicolas. Il commence à écouter le disque de moi, éventuellement. Il trouvait une chanson qu'il aime beaucoup. Mais juste une. Just leave all, leave me alone with my dreams. I couldn't do without you. You know what I mean.
You know what I mean, pépite extraite de Face Value, premier album studio de Phil Collins. Après 2 heures de live, j'ai été bluffé, moi, par le nombre de jeunes qui sortaient de la salle.
Oui.
C'est que ça, ou trentenaire, tout le monde était sous le charme.
Très bien, malgré que Phil Collins était assis, c'était vraiment super.
Excellente soirée, il a la pêche, ça fait plaisir qu'il remonte sur scène. Voilà, c'est des tubes qu'on connaît tous. Moi, c'est pas ma génération, mais c'est mes parents, ils m'ont baigné dedans. Franchement, que du plaisir.
J'ai pleuré au début, à la fin. C'était vraiment une chose que je voulais faire, de le voir, puisqu'il y a à peu près 15 ans, quand il a fait sa dernière tournée, en disant que c'était la dernière, il fallait que je passe le bac, en fait. Et finalement, je l'ai vu.
C'était merveilleux.
C'était super. C'est... Franchement, toujours la même voix, toujours au top. On l'aime pour ses chansons, on l'aime pour sa générosité. Et on l'aime pour tout.
Phil Collins chante encore ce soir, jeudi et vendredi à Paris-Bercy. Ne cherchez pas, c'est complet. Son autobiographie Not Dead Yet, dont je vous avais parlé à l'automne, est encore disponible, je vous la conseille. Édition Michel Lafou.
On n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. C'était le grand retour de
Moi,
Phil Collins.
Moi, j'y reviendrai bien.
Ben, voilà, j'ai bien compris que... Merci, Phil. Que c'était très réussi et que le public était ravi de retrouver Phil Collins sur scène. On va passer maintenant à nos résultats d'audience avec Médiamétrie, audience télévisée. Oh, vous avez un petit sourire, vous.
Oui, je suis bien contente.
Allez-y.
Ah, ça y est, j'ai pas entendu le jingle. Excusez-moi. Ah, mais voilà. Pour une fois, j'avais vraiment pas... Il n'y a pas eu, quoi. Donc, eh bien, écoutez, en tête sur TF1, Les Esprits Criminels, une petite moyenne, c'est des audiences de plein été. Hein, 4 800 000 téléspectateurs et 20% du public. Et qui est juste derrière, à 100 000 et quelques près.
Dites-nous.
Eh bien, l'amour est dans le pré. Saison 12, 4 700 000 téléspectateurs. C'est un très fort démarrage. Et là aussi, 20% du public sur la 6, devant Meurtres au Paradis, qui n'en rassemble pour le coup que 3 700 000. Ce qui n'est pas nul, hein, mais c'est moins bien. Et alors, côté TNT, c'est Big Game sur C8 qui est largement en tête, 990 000 téléspectateurs.
On se retrouve dans quelques instants pour nos programmes télévisés du soir, Isabelle. Monique Younes est avec nous pour nous parler de la rétrospective David Hockney au Centre Pompidou. Et on retrouve aussi Charlotte Arrigoni dans un instant pour ses...
Express.
Oui. Bien, bien tassé. Il y en a qui ici. Vous savez que alors, la petite Younes, elle est très très bien. Première de la classe. Allez-y.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
C'est une information RTL, on connaît désormais le président du festival du film francophone d'Angoulême.
Oui, c'est l'acteur américain John Malkovich qui sera le président de cette 10e édition du 22 au 27 août prochain avec RTL. Ce festival est devenu le coup d'envoi de la rentrée du cinéma dirigé par Marie-France Brière et Dominique Besnéard. Parmi les membres du jury figureront la journaliste Claire Chazal et l'actrice Laura Smet.
Une très triste nouvelle en Irak, un journaliste de France 2 est décédé lors d'un reportage à Mossoul.
Stéphane Villeneuve travaillait pour l'émission Envoyé spécial. Il a succombé à ses blessures après l'explosion d'une mine. Marié, il était père de 4 enfants. Sa collègue qui était sur place avec lui a été blessée. Leur fixeur, un journaliste kurde, a également été tué. Dans un communiqué, France Télévisions a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes.
La Canadienne Shania Twain fait son grand retour.
Elle est encore à ce jour l'artiste féminine à avoir vendu le plus d'exemplaires d'un album, en l'occurrence Come On Over en 1997. 15 ans après l'album Up, la chanteuse fait son comeback. Elle publiera le 29 septembre prochain un nouvel enregistrement intitulé Now. Le tout premier extrait vient d'être dévoilé. La chanson s'appelle Life's About to Get Good. Extrait. Oh, life's about joy, life's about pain. It's all about forgiving and the will to walk away. I'm ready to be loved and love the way I should. La dernière chanson de Shania Twain, prochain album à l'automne.
T'es pas fatigué, hein ? La série Vestiaire, bientôt de retour sur France 2 pour une 7e saison.
Et il y aura bien sûr de nombreux invités spéciaux, dont le champion de natation Florent Manaudou. Au casting aussi, Clémentine Célarier, Pascal Légitimus ou encore notre médecin sur RTL, Michel Simès. La série courte, diffusée à 20h40, est actuellement en tournage à Bordeaux et à Périgueux.
Moi j'attends parents mode d'emploi, j'adore, ça revient quand ça ?
Ah mais ça, ben là...
Oh, ça mérite d'être
à tout moment. Alors là, vous pouvez être tranquille, Isabelle a la réponse. Romain Duris aime le cinéma, mais aussi le dessin, et vous allez prochainement pouvoir vous en rendre compte.
Oui, puisque l'acteur exposera ses dessins à la Galerie Cinéma dans le Marais à Paris à partir du 15 septembre prochain. Des œuvres érotiques faites au crayon, au stylo et à l'acrylique. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'êtes pas sur Paris, vous pourrez feuilleter son recueil de dessins qui sortira à la même période.
Aux éditions textuelles. J'ai bien dit textuelles.
Merci Bernard, et par ailleurs, merci Charlotte, c'était donc les espèces de Laissez-vous tenter. Monique Younes.
Oui.
Le Centre Pompidou sera le centre du monde de l'art demain, car c'est le jour d'ouverture de la rétrospective David Hockney, un des plus importants peintres vivants et certainement le plus célèbre des peintres britanniques, qui s'apprête à fêter ses 80 ans le 9 juillet.
Un artiste virtuose qui continue à innover en peinture, en dessin, en photo et même en film. Les techniques et les thèmes des 160 œuvres exposées à Beaubourg sont tellement variés qu'on a du mal à croire que c'est le même artiste qui les a réalisées, ai-je dit à David Hockney.
Yeah, but it's all me.
Oui, mais ils sont tous de moi. Vous pouvez percevoir ma main tout le temps. La main, c'est très important. Je crois qu'il faut de la joie dans les tableaux. J'aime croire qu'il faut de la joie, même si les choses tournent mal.
David Hockney est le peintre de l'intime, mais dans la joie de vivre, à la différence de beaucoup. Certaines de ses toiles font aujourd'hui partie de notre imaginaire collectif, comme la série Californie, qui représente des jeunes garçons nus en train de plonger dans la piscine, de nager ou de bronzer au bord de l'eau sous un ciel bleu azur, sur fond de montagne. Tout cela inspirant la zénitude absolue.
Alors le plus fameux de ces tableaux étant A Bigger Splash, qu'on pourrait traduire littéralement par le plus grand éclaboussement.
Oui, mais il vaut mieux ne pas le traduire et lui laisser sa sonorité. The Bigger Splash. C'est un tableau légendaire, issu de la série Californie. On le reconnaît en carte postale, en poster, en film. Mais il prend une dimension particulière à Beaubourg parce qu'on le découvre au milieu des œuvres de jeunesse de l'artiste. En 1954, Hockney, à 16 ans, est peint des paysages de Bradford, son village natal du nord de l'Angleterre, où le soleil ne brille pas souvent. On comprend alors le choc qu'a été pour lui la découverte du ciel
et de la lumière de la Californie, d'abord à travers des magazines coquins, ensuite lors de son voyage à LA en 1964. Entre-temps, David Hockney a eu sa période qu'on pourrait qualifier de semi-abstraite, puisque c'est à travers ses peintures gestuelles qu'il évoquait sa sexualité. La somptueuse série Love's Painting est exposée à Beaubourg. Évidemment, la plus célèbre de la série intitulée Clearing Teeth est une espèce d'hallucination publicitaire pour le dentifrice Colgate, iconique.
Il est influencé par Jackson Pollock ou par Andy Warhol ?
Et voilà, c'est toute la question. Ah bah oui. Par de Kooning ou par Edward Hopper, par Frangelico ou par Rothko, par Dubuffet ou par Bacon, en tout cas par Matisse et par Picasso. En dernier ressort, c'est Picasso, dit-il, qui lui a appris l'essentiel.
Oh, well, I discovered Picasso.
J'ai découvert Picasso quand j'avais 12-13 ans. Je me souviens de la femme qui pleure. Et j'ai pensé que c'était un merveilleux, merveilleux tableau. Picasso est un artiste unique. On peut découvrir des nouveautés dans les toiles de Picasso encore aujourd'hui. Il m'a tout d'abord montré comment on peut travailler dans des styles différents, poursuivre un style, puis faire autre chose. Il est un grand exemple pour moi.
Est-ce qu'à 80 ans, David Hockney est toujours aussi élégant ?
Ah, British and so British, jusqu'au bout des ongles. Quand je l'ai rencontré la semaine dernière, il avait troqué le nœud pape pour une cravate rose. Il avait un béret blanc sur la tête et me regardait malicieusement à travers ses inévitables lunettes rondes. Nous étions assis dans la salle des doubles portraits qui représentent des couples pris dans leur intérieur. L'un des plus bouleversants est celui dans lequel on voit sa mère qui nous regarde avec beaucoup de tendresse. Elle est assise à côté de son père, absorbée par la lecture d'un livre d'art. Et au cœur de ses films, de ses collages de Polaroid et de nombreux de ses tableaux, David Hockney travaille sur l'épaisseur du temps. Alors je lui ai demandé si c'était toujours son obsession.
My time is nearly up, isn't it? I'm 80 years old.
Mon temps est bientôt fini, n'est-ce pas? J'ai 80 ans. Combien de temps il me reste encore à vivre? Je suis encore fumeur à 80 ans, mais je pense que le temps est le grand mystère. Pour les photographes, le temps a toujours été un problème, j'en ai toujours été conscient. Les peintres, eux, ont toujours le temps, parce qu'il faut du temps pour peindre. Cette peinture a demandé 4 mois de travail environ.
À la fin de l'entretien, Hockney est parti fumer une cigarette, il en fume plus d'un paquet par jour. Je me suis dit, tiens, les peintres n'ont même plus le droit de fumer devant leur propre toile. C'est un des signes que le monde de David Hockney n'est plus le nôtre. Je l'ai retrouvé un peu plus tard déambulant dans les dernières salles de son exposition, celle où est accrochée sa dernière œuvre, une interprétation de l'Annonciation de Fra Angelico, un tableau qui le fascinait quand il était enfant. C'est mystique et enfantin, c'est David Hockney.
Et comme nous avons beaucoup aimé l'exposition Hockney, nous allons vous faire gagner des catalogues et des places pour la voir. Quelle est la question que vous posez à nos auditeurs,
Alors, je voudrais juste avant tout préciser que l'exposition dure jusqu'au 23 octobre. Et si vous n'avez pas le temps de venir à Paris, le catalogue de l'exposition sous la direction de Didier Ottinger est extraordinaire. Donc, la question pour gagner catalogue et place est: David Hockney est-il anglais ou américain ?
32-10 pour votre réponse et pour gagner des catalogues et des places pour aller découvrir cette rétrospective David Hockney au Centre Pompidou. Dans quelques instants, nous parlons littérature avec Bernard Lehu. En poche.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Cher Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez ce matin faire un petit tour dans votre bibliothèque de livres de poche, pas mal de nouveautés à la veille de l'été et des vacances. Il est vrai que les poches, ça donne des ouvrages faciles à glisser dans les valises. Et vous nous proposez ce matin deux polars.
Et d'abord, Le temps est assassin de Michel Bussy. L'été, nous y sommes. Plus exactement, deux étés à 27 ans de distance. En 1989, une famille est décimée par un accident de la route en Corse. Seule rescapée, la fille Clotilde. En 2016, elle revient pour la première fois sur les lieux de la tragédie pour exorciser ce passé douloureux. C'est tout le contraire qui va se produire. À peine arrivée, elle reçoit une lettre de sa mère. Comment une morte peut se manifester ainsi 27 ans après ? Clotilde va vivre un cauchemar et vous ne pourrez plus lâcher cette histoire. Alors, ce n'est pas la première fois que Michel Bussy aborde le thème de l'accident et de la perte prématurée des parents. Le romancier nous avait confié l'an dernier les raisons de cette obsession.
Je crois clairement, mais ça revient souvent dans mes romans, c'est l'idée de la mort des parents
et de l'adolescente qui va se construire sans ses parents et sans pouvoir faire le deuil. Ça, c'est clair.
Pourquoi ce thème-là ?
Parce que ça correspond à ma propre histoire, je pense. C'est-à-dire que dans beaucoup de mes romans, il y a effectivement cette idée de la paternité. J'ai perdu mon père assez tôt. Et donc, du coup, il y a...
À quel âge ?
À 10 ans. Et du coup, je pense...
Accidentellement, donc ?
Oui, oui. Donc, du coup, il y a cette idée, sans doute, hein, que l'adolescence qui se construit sans parents laisse place à l'imagination, au possible, à comment les parents auraient-ils pu vieillir. Enfin, voilà, mes romans ne sont pas du tout des romans autobiographiques, donc de ce point de vue-là, mais c'est vrai que dans mes romans, cette question de la paternité, de la filiation, de la quête d'identité, c'est quelque chose qui revient assez souvent et qui, paradoxalement, donne sans doute le fil conducteur de mes romans. C'est un peu mélancolique, donc j'aime bien que mes romans aient une touche mélancolique au-delà du polar.
Michel Bussy, Signe le temps est assassin, désormais disponible chez Pocket.
Autre polar dans votre pochetèque, Hortense de Jacques Expert.
Et là aussi, un fantôme ressurgit du passé. Sophie avait une fille, Hortense, enlevée par son ex-compagnon. Elle ne l'a plus jamais revue. 23 ans après, une jeune femme bouscule Sophie dans la rue. Cette Hortense, elle en est sûre. Elle la suit, l'observe, l'approche, sympathise. Mais où est la vérité ? Sophie est-elle en plein délire ou la jeune femme la manipule-t-elle ? Le suspense ira crescendo jusqu'à un dénouement d'une brutalité, d'une imprévisibilité stupéfiante. Mais Hortense, c'est aussi un livre réussi sur le lien mère-fille, Jacques Expert.
Oui, quelque part, même si c'est un roman terrible, c'est une histoire d'amour, en fait, ce livre. C'est ça le paradoxe de ce roman. C'est une vraie histoire d'amour entre une mère qui a perdu sa fille et qui a envie un jour de la prendre dans ses bras. Et il y a également l'histoire d'une jeune femme qui espère un jour avoir une mère.
Hortense de Jacques Expert vient de paraître au livre de poche. Et je signale aussi l'apparition chez Albin Michel d'un autre livre de Jacques Expert qui n'a rien à voir avec son univers habituel du polar. Ne nous quittons pas. Un récit autobiographique dans lequel Jacques Expert raconte 3 jours de vacances bouleversés par l'arrivée inopinée de Jacques Brel et de sa famille sur la plage où son père, le père de Jacques Expert, était maître nageur. Surprenant et attendrissant.
Vous excitez notre curiosité. On va pas donc passer maintenant à la télévision avec Isabelle Morini-Bosque. Et sur France 2, Isabelle, on note tout le monde joue avec la loi. C'est un programme utile pour tester nos connaissances en matière de droit, mais vous avez également aimé l'émission qui suit.
Oui, qui s'appelle Retour aux sources, et comme son nom l'indique en partie, elle permet à une vedette d'enquêter sur ses racines avec l'aide de nombreux spécialistes que l'émission met à sa disposition. L'idée et le programme sont signés Arnaud Poivre d'Arvor.
C'est toujours le même concept, permettre à une personnalité de remonter son arbre généalogique et faire des découvertes sur son histoire familiale. Et à travers ce récit, évidemment, découvrir la grande histoire. C'est l'occasion pour une personnalité de revivre des moments de la vie de ses ancêtres. Et c'est très émouvant et c'est une émission dont je suis de plus en plus fier. Et à chaque fois qu'on recommence, c'est une nouvelle aventure. Voilà, j'adore faire ce programme. Ça doit faire du bien à l'âme. C'est notre souhait le plus cher, mais c'est vrai que c'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin. Après François Berléand qui se découvrait juif et Sonia Roland retournée au Rwanda la semaine dernière, c'est au tour de la très sympathique Barbara Schulz, de se pencher sur ses non-dits familiaux. Elle était au départ réservée sur le projet.
Non, en fait, je ne connaissais pas l'émission jusqu'à ce que Arnaud Poivre d'Arvor m'en parle. J'ai failli dire non. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique. L'idée d'avoir mon histoire familiale. Puis j'ai regardé l'émission de Berléand que j'ai trouvé fantastique, tellement de belles factures. Et surtout, je me suis dit, si je ne la faisais pas, je n'irai jamais chercher les réponses à toutes ces questions que je me posais, quoi. Vous savez, dans les familles, on grandit, on nous distille les informations par petites touches. Soi-même, on se raconte des histoires dans la tête. Moi, je suis d'une nature d'abord très curieuse. Et comme je sentais qu'il y avait un inconfort, que c'est mon père qui me disait qu'il avait honte, que ma mère m'a raconté quand ils se sont fiancés, il lui a avoué, mais comme s'il avait été criminel de guerre, qu'en fait, son nom, c'était allemand et pas alsacien. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui m'intriguaient. Qu'est-ce qu'on ne me dit pas, du coup? Forcément, quand on ne dit pas les choses, on imagine beaucoup plus. Eh bien, pire.
Alors, ce qu'on lui cachait comme une maladie honteuse, c'est que son grand-père était allemand, soldat de la Wehrmacht, prisonnier en France, où il vit une folle histoire d'amour avec une infirmière française. Elle n'avait pas peur, Barbara Schulz, de ce que, et le public allaient découvrir.
Alors ça, pour le coup, j'aurais découvert n'importe quoi, ça ne m'aurait pas gênée. Étant la petite fille, pas une seconde, je me serais dit « Oh, je veux pas que ça se sache !» Ben non. Oui. J'ai découvert que mon père avait été déclaré comme un enfant né sous X, j'ai découvert cette histoire, c'est très romanesque, l'infirmière, l'amour interdit, tout ce qu'on aime, quoi. La magie de cette émission, c'est surtout qu'on refait le chemin, en fait. J'ai été dans des lieux dont on m'a parlé toute mon enfance, Berlin, et je le tournais dans mes pauses, mais j'avais hâte d'y aller. Maintenant, quand on me demande quelque chose, c'est allemand. Si, oui, tout à fait. J'avais un grand-père allemand qui était dans la Wehrmacht. C'est dit, comme quand on remarque que tout d'un coup, on n'a plus mal au dos. Ma tante qui a envoyé l'émission, elle ne m'a pas appelée. Donc, je ne sais pas. Mes frères, l'un, juste en regardant le teaser, il pleure. Donc, ça va être compliqué. Et l'autre, il était bouleversé, ravi. Voilà.
Voilà, elle assume tout. J'aime beaucoup.
C'était le grand papa
Schulz,
donc.
Oui, c'est le grand papa Schulz. Oui. J'ai pas osé la faire.
Voilà.
L'émission est absolument passionnante, poignante. Enfin, j'aime énormément. Et notez enfin sur France 3 le dernier divan de Marc-Olivier Fogel de la saison consacré à Jacques Lang. Marc-Olivier a décidé de geler l'émission l'an prochain pour mieux revenir l'année suivante et pour garder à cet hebdomadaire son côté événementiel.
Merci.
On lui souhaite qu'elle soit mieux programmée à l'avenir parce qu'elle a fait un peu le yo-yo sur la grille, quoi.
Et dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné des places pour aller découvrir la rétrospective. David Hockney, ainsi que des catalogues de l'exposition. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dites-moi, Monique Younes, David Hockney est-il anglais ou américain ?
British. So British, darling.
Et si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné des places et des catalogues pour aller découvrir cette rétrospective qui a lieu au Centre Pompidou. Merci à toute l'équipe.
Oui. Et Barbara Schulz, elle tourne une série pour France 2, Ben. C'est pour ça qu'elle était au téléphone. Avec votre histoire de grand-papa Schulz, du coup, j'avais oublié.
Excusez-moi, moi je ris avec des choses assez simples. Bon, allez, on va retrouver maintenant Julien Courbet. Bonjour, Julien.
Est-ce que quelque chose dans votre équipe a quelque chose d'autre à dire ?
Non.
Barbara Schulz qui
est arrivée au terme de cette émission.
Alors, bonjour, on me signale que François Pichon est aux toilettes, si vous le cherchez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hervé Pacro gare sa voiture actuellement. Oui. Voilà. Sinon,
nous,
j'ai
sont les aventures de Pouchol, vous savez, qui nous interpellent
toujours. Ah, mais là, aujourd'hui...
Marche arrière, marche avant,
oui, bah, écoutez,
demi-tour.
Là, plutôt, il ne marche pas du tout. Il est allé coucher parce que c'est son jour de repos, si
ah,
vous
oui.
voulez.
Ah,
il prend son roteteux aujourd'hui.
C'est
son
parfait.
Gros roteteux.
Oh, oui.
Allez, je vous souhaite une bonne,
bonne
journée.
Émission.
Merci beaucoup.